Et pour continuer dans l'innovation, nous allons écouter Marie Gomi, réalisatrice et audiodescriptrice, qui va nous parler un petit peu des nouveaux moyens de favoriser l'accessibilité au film pour les publics dits empêchés.
Bonjour. Alors les nouveaux moyens, je ne sais pas, parce que donc je vais vous parler exclusivement d'audio description aujourd'hui. J'ai l'impression d'être une naine. Que je suis certes, mais voilà, on va faire ça. Voilà. L'audio description existe depuis plus de 30 ans, donc on peut pas vraiment dire que ce soit une nouvelle technologie, mais c'est une technologie dont on parle de plus en plus ces derniers temps, parce que voilà, il y a eu diverses lois ces derniers temps qui ont obligé les chaînes et les lieux culturels à rendre accessibles les œuvres et à atteindre des quotas, notamment pour les chaînes de films qui puissent être audio-décrits et sous-titrés malentendants, puisqu'en général, on demande aux chaînes et aux producteurs de faire un package pour avoir des aides, etc. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, je vais me présenter un tout petit peu. Donc, je suis documentariste. Je fais essentiellement du documentaire, et puis au cours de repérage pour un projet de film que j'avais au centre de Marly-le-Roi, qui est un centre de rééducation pour les gens qui perdent la vue en cours d'existence et qui doivent tout réapprendre, j'ai découvert ce procédé via des gens qui étaient là-bas, qui m'ont parlé de l'audiodescription, ce que je ne connaissais pas du tout. Et en tant que cinéaste, j'ai trouvé ça absolument passionnant comme procédé, parce que tout à coup, il m'apparaissait très vivement que c'était un procédé qui ressemblait à de la traduction, d'images, et qui, au-delà du principe d'accessibilité, d'outils pour le handicap, pour moi, posait des questions d'écriture, d'adaptation. On ne décrit pas pareil la Mandelette du Châtelet et, les Tontons Flingueurs. Donc ça pose des questions de genre, ça pose des questions d'immersion dans la langue. Et je me suis dit que j'avais envie de m'y initier. Donc j'ai fait une formation auprès de l'association Valentin Ahuy, qui était une formation professionnalisante. Et ensuite j'ai été recrutée comme audiodescriptrice. Et c'est comme ça que je fais ce travail depuis 10 ans. Je ne sais pas si parmi vous, je ne sais pas si c'est clair, si vous connaissez véritablement l'audiodescription, parce que ce n'est pas toujours évident, souvent on le confond avec le sous-titrage, malentendant. Donc l'audiodescription, pour faire vite, c'est donc ce procédé qui conserve la bande-son des films. Alors là, je vais vous parler des films, mais on peut tout audiodécrire. Je pars de l'exemple des films pour que ce soit clair. On conserve la bande-son des films, même longueur, bande-son, et en gros, on introduit une voix qui va décrire tous les éléments qui ne sont pas accessibles par l'oreille en compréhension. Donc c'est exactement la même durée de film, et en gros on transforme l'œuvre visuelle et sonore en une œuvre purement sonore, quasiment en une œuvre radiophonique. Et c'est en ce sens que c'est, à mon avis, un procédé qui ne s'adresse pas qu'au handicap. Bien sûr, il s'adresse au handicap, mais une idée qui, moi, m'est très chère, c'est qu'il ne faut pas que l'audiodescription devienne un outil stigmatisant. Pour moi, c'est un objet de partage d'une œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre devient un objet, l'œuvre initiale est transformée en un objet dérivé, une sorte d'adaptation fidèle de l'œuvre originale, mais qui est partageable par tous. Par exemple, si vous avez envie d'écouter les oiseaux d'Hitchcock parce que vous allez à Marseille dans votre voiture, eh bien vous le pouvez. Et c'est une approche de l'œuvre qui est sensiblement différente et une sensorialité qui est différente aussi. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc tout est descriptible. Des expositions de musées, des spectacles de théâtre, de la danse, absolument tout. Donc, la question que je me suis posée, évidemment, puisque c'est la journée des bibliothèques, c'était comment vous, effectivement, vous pouviez vous approprier ce procédé. Et avant ça, je vais vous faire écouter un extrait de description pour que vous ayez une petite approche du procédé. Alors, je n'ai pas choisi un grand film, j'ai choisi un extrait que j'avais en réserve et qui est un extrait du Monde de Narnia. C'est le tout début du film, ça doit être le Prince Caspian, ce n'est pas un immense film, Mais ce qui m'intéressait, c'était que comme le premier film n'était pas décrit, le premier film de Narnia, on était très embêtés parce qu'on s'est dit, voilà, notre public enfantin va arriver dans ce film en n'ayant pas du tout de notion du premier. Donc, au tout début du film, on a pris la liberté, nous, du descripteur, de se dire, on va résumer le premier. On va rentrer dans un procédé narratif au départ. Et donc, dans cet extrait que je vais vous faire entendre, qui fait 4 minutes, vous allez entendre donc un procédé narratif au départ et ensuite un procédé d'audiodescription. Et vous allez voir que c'est très différent, c'est pas du tout la même chose. Bon, alors comme je suis nulle en informatique, voilà, en plus d'être naine, alors... oui, mon truc, Marie Gomis, c'est bien, c'est moi. Donc je vais vous faire écouter cet extrait sans l'image. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu compressé. Ça va vite. En général, quand on n'a pas l'habitude de l'audiodescription, on est un peu comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ça.
Walt Disney Pictures présente.
Ça me semble pas très fort.
Il était une fois 4 enfants, tous frères et sœurs, qui se prénommaient Peter, Suzanne, Edmund et Lucie. Un jour, en ouvrant la porte d'une armoire magique, les enfants se retrouvèrent dans un monde fabuleux peuplé de nains, de géants et de créatures étranges. Ils devinrent les rois et les reines de ce pays appelé Narnia. Durant cette aventure, ils eurent l'impression de régner durant de longues et longues années. Mais lorsqu'ils rentrèrent par la porte de l'armoire et se retrouvèrent en Angleterre, il apparut que toute leur histoire n'avait pris aucun temps. Nul n'avait remarqué leur absence. Et ils ne parlèrent à personne de ce qui leur était arrivé.
Narnia. Dans la nuit, un château fort entouré de vastes forêts se dresse sur un promontoire rocheux. Dans une chambre du château, une femme accouche avec l'aide de ses servantes.
Serviette.
La sage-femme enveloppe le nouveau-né dans un lange. Elle le présente à la maman qui le prend dans ses bras, tout ému. La mère défait le linge et regarde le sexe de l'enfant. Elle le serre contre elle avec bonheur.
Un homme brun en bottes et tunique de cuir noir entre dans une salle d'armes austère.
Seigneur Miraz, vous avez un fils.
Miraz regarde la nuit obscure par la fenêtre.
Le ciel nous a accordé ce bonheur.
Il est typé espagnol, barbu, les cheveux bruns très courts.
Vous connaissez les ordres. Général Clausel.
Oui, monseigneur.
Un garde coiffé d'un casque de métal comme ceux des conquistadors s'éloigne dans un couloir de pierre au plafond voûté. Tandis qu'à l'autre bout du corridor apparaît une silhouette dissimulée sous une grande robe à capuchon. La silhouette entre dans une chambre où dort un beau jeune homme brun aux cheveux mi-longs. Elle plaque une main sur la bouche du dormeur. Il s'éveille et se calme à la vue de l'homme à la longue barbe blanche sous le capuchon.
Encore 5 petites minutes.
Nous n'observerons pas les étoiles ce soir, mon prince. Venez! Nous devons nous hâter.
Il l'entraîne hors du lit à baldaquin.
Le professeur Cornelius, que se passe-t-il?
Votre temps vient de donner naissance à un fils.
Il entre dans une armoire.
Venez.
Le meuble possède un double fond qui constitue un passage secret pour sortir de la chambre. Le prince referme à demi les portes de l'armoire et regarde par la fente. Les hommes du général Glozel entrent. Ils passent devant le faucon du prince et pointent leur arbalète sur le lit aux tentures tirées. Glozel leur donne le signal. Le faucon s'affole sur son perchoir. Les flèches déchirent les tentures découvrant le lit vide. Les plumes blanches du matelas volettent dans la pénombre. Cornelius et le prince descendent un escalier de pierre jusqu'à l'entrepôt des armes. Le prince saisit une tunique de cuir et une épée.
Bon. Alors, c'est un peu compressé et voilà, donc j'en suis un tout petit peu désolée, mais voilà, ça vous donne une toute petite approche de la chose. Alors, Si vous le voulez, juste pour faire la petite expérience, je vous montre maintenant le même début, mais avec l'image, et sans l'audiodescription.
Serviette.
Seigneur Miras, vous avez un fils.
Le ciel nous a accordé ce bonheur. Vous connaissez les ordres. Général Clausel.
Oui, monseigneur.
Les étoiles ce soir, mon prince. Venez, nous devons nous hâter.
Le professeur Cornelius, que se passe-t-il?
Votre tante vient de donner naissance à un fils. Venez.
Deux expériences différentes, deux façons d'imaginer le film différentes. Et c'est là où, à mon sens, l'audiodescription peut prendre du sens. C'est-à-dire que, pour moi, elle interroge l'écriture, le regard et les images qui se créent dans nos têtes. Donc, en fait, elle peut donner lieu à quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation à l'image et aussi, évidemment, toucher différents publics et les mélanger. Alors, c'est assez compliqué pour moi. Enfin, j'essaye tout. Je me suis vraiment posé la question de quelles pouvaient être vous, enfin vos problématiques à vous, et donc je me suis dit que, a priori, connaissant un peu l'état dans lequel se trouve l'audiodescription aujourd'hui, je me suis dit que ce à quoi vous aviez accès vous pour savoir quels films sont audiodécrits ou pas, puisque j'imagine que ce sont surtout les films qui vont vous intéresser, c'est que je me suis dit que la difficulté c'était de savoir où tabler. Ou savoir quelles sont les ressources. Et est-ce que je me trompe ou pas là-dessus? Donc en fait, effectivement, il n'y a pas immensément de référencement centralisé pour l'instant. Moi, j'en ai référencé deux, qui sont effectivement le catalogue du CNC, qui recense l'ensemble des films accessibles, sous-titrés malentendants et audio décrits, et que donc on peut trouver sur le site du CNC, si vous faites, je crois, cnc.fr, je l'ai noté en fait, /web/fr/accessibilité. Si vous faites ça, effectivement, vous tombez sur l'ensemble du catalogue, et aussi le catalogue où il y a, où vous aurez le film des dispositifs scolaires, donc des films plus adaptés pour tout ce qui est public scolaire, enfin enfant. Et il y a aussi des courts-métrages. Et ensuite, alors effectivement, après, il y a toute la question de la négociation des droits, où là, effectivement, il faut que vous puissiez contacter les ayants droit pour pouvoir effectivement projeter des choses. Ensuite, il y a le site de Retour d'Image, retourdimage.eu, où là, vous allez avoir un catalogue spécifique à cette association qui recense 40 longs-métrages audio décrit et sous-titré par l'association, et autant de courts-métrages. Voilà. Et pour tout ce qui est droit d'exploitation, eux peuvent vous aider pour les démarches. Voilà. Sachant qu'ils ont, ils font ça assez régulièrement. Ensuite, il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est très très frais, mais qui, à mon avis, va changer beaucoup de choses, y compris d'ailleurs pour les cinémas. C'est qu'il y a une association allemande qui vient de créer deux applications qui s'appellent Greta et Stark. C'est des applications en fait, qu'on peut trouver sur Google Play et Apple Store via Android et je ne sais plus quoi, et Apple iOS. Et en fait, Greta, c'est un système où en fait, on va télécharger l'audio description. C'est-à-dire qu'en gros, les producteurs et les diffuseurs qui se lancent là-dedans, au lieu de les mettre comme auparavant sur les DVD, vous avez aussi évidemment votre collection, vos acquisitions DVD où certains films sont accessibles et que là vous pouvez exploiter. Mais là maintenant, de plus en plus, ce qui risque de se développer, c'est que ça ne va plus être sur les DVD, ça va être sur cette application que les usagers téléchargent sur leur portable et qui ensuite, avec un système d'oreillette pour les audiodescriptions, va se synchroniser directement en salle avec le film ou sur le DVD directement. Et ce qui est encore plus génial, là ça ne me concerne pas moi tout à fait, mais il y a aussi l'application Stark, donc c'est la même boîte, pour les malentendants. Donc pareil, on télécharge via Google Play ou Apple Store l'application Stark, l'usager, sur son téléphone portable. Puis, il y a des lunettes spécifiques pour les malentendants qui sont connectées sur le téléphone et qui leur permettent d'avoir le sous-titrage en individuel dans la lunette, en fait, et qui va se synchroniser avec le film ou le DVD. Pour l'instant, le catalogue est très petit sur ces deux applications, en tout cas en France. Il est beaucoup plus large en Suisse ou en Allemagne. La France a un peu de mal à s'y coller, mais je pense sincèrement que pour des raisons économiques, notamment, ça ne peut que se développer. Donc je pense que c'est une affaire de temps, mais à mon avis, dans les mois ou l'année ou les deux ans à venir, ça va véritablement se développer. Et évidemment, ce qui peut changer pas mal de choses pour vous, puisque du coup, ces applications, ben voilà, les usagers viennent avec, et ça vous permet peut-être d'organiser des choses en bibliothèque ou dans les médiathèques. Ça, c'est pour la partie vraiment technique. Après, en termes de véritablement support technique, il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Voilà, il y a les DVD, et puis ensuite, il y a les projections en salle qui sont existantes, mais qui, je pense, vous concernent moins. Mais si vous voulez vous en organiser, vous, effectivement, ça passe par le DVD ou les applications. Après, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose sans doute à faire avec l'audiodescription qui est d'ordre de l'atelier et de la création d'un public qui ne se déplace pas forcément spontanément en bibliothèque. Donc, et pareil, sans stigmatiser, il me semble que y a des belles propositions d'ateliers à décliner selon les âges avec ça, et qui sont, par exemple, des choses très simples. Je pense que, par exemple, au lieu de proposer des projections de films avec la possibilité d'avoir une audiodescription spécifique au handicap de la personne, on peut très bien imaginer qu'on fait des projections de films purement sonores, pas d'image. Et ensuite, alors peut-être ce sont des films que certains voyants auront déjà vus, mais ensuite d'interroger et peut-être de dialoguer ou de créer un moment de parole autour de voilà, comment on a perçu, quels sont les croisements de perception. Alors bien sûr, après on peut pousser, on peut aussi faire avec du court-métrage des choses à l'adresse de publics malvoyants et voyants, ou même que voyants, où tout à coup on sensibilise un public voyant à une autre forme de perception. On leur fait écouter des passages ni audio décrit et sans image, que du son. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qu'on perçoit? Quel film on va s'imaginer? Quel imaginaire on suscite? Et puis on ajoute de la description. Quel film on va se faire? Et puis ensuite, on voit le même court-métrage avec l'image. Quelles sont effectivement les différenciations? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on préfère le film qu'on s'est fait ou pas? Et moi, personnellement, c'est des ateliers que j'ai fait beaucoup avec l'association Passeurs d'Images, avec le pôle Image Haute-Normandie, puisque je viens de là. Et ça fonctionne très fort. En fait, il y a une captation de l'attention, notamment des jeunes publics, auxquels je ne croyais pas forcément. Au début, je me suis dit, ça va être austère, ça ne va pas leur plaire. Et pas du tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, pas en France, parce que la France est un petit peu en retard sur tout ce qui est études linguistiques et études scientifiques autour de l'outil audiodescription, mais partout en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la question effectivement de l'audiodescription comme captation de l'attention et se sont rendus compte que pour tout ce qui était les problèmes d'autisme, de trisomie, etc., et tout, c'était un outil extraordinaire. Ou même pour des enfants qui sont agités, parce que contrairement à nous qui parfois voyons l'image plus l'audiodescription, ça fait une surcharge d'informations et c'est compliqué, et bien étrangement, scientifiquement, ils se sont rendus compte que pour certains enfants, ça capte, ça canalise l'attention et même ça explique bien mieux l'histoire. C'est-à-dire vraiment, ça devient un outil de compréhension supplémentaire. Et c'est aussi en ça que je pense que l'audiodescription est importante, c'est qu'il me semble que par l'immersion dans l'audiodescription, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'approche du texte qui devient intéressante. Moi, je le constate très simplement aussi avec mes enfants. Mes enfants écoutent beaucoup d'audiodescription, ils aiment ça. Et je trouve qu'il y a un développement du coup du vocabulaire qui est infini, parce que, enfin, comme je vous disais, et de l'imaginaire et du vocabulaire. Il y a aussi d'autres petits ateliers assez ludiques comme ça qui fonctionnent très bien aussi avec des jeunes publics, mais aussi avec des adultes. C'est le fait de, puisque je vous ai dit qu'on peut faire de la description avec aussi des œuvres, c'est faire décrire des images à des gens, par groupe. Par exemple, un groupe de 5 décrit une même image dans leur coin, chacun, et puis vont donner leur description de l'image à des gens qui n'ont pas vu l'image et qui vont écouter ce qu'ils décrivent et qui vont dessiner ce qu'ils entendent. Et là, effectivement, on peut faire tout un travail sur la perception, sur la subjectivité, sur comment on décrit, est-ce qu'il faut des axes principaux, est-ce qu'on arrive à rendre des compositions, et surtout sur la subjectivité et l'objectivité. Une même image décrite par 5 personnes différentes, 5 images différentes. Une même image écoutée par 5 personnes différentes, 5 images différentes. Et donc, du coup, évidemment, ça pose vraiment ces questions sur, voilà, qu'est-ce qui est objectivable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin, ça peut vraiment donner lieu à des choses, à des débats qui sont assez formidables par rapport à l'image et par rapport à la réalité de l'image. En termes d'approche cinématographique, il y a aussi des jolies choses à faire parce que je trouve que c'est un outil d'analyse filmique assez extraordinaire. Sur la simple question qui est que l'audiodescription, elle se base sur assez peu de règles en vérité. On écrit au présent, on ne chevauche pas les dialogues et on n'interprète pas. On ne prend pas son public pour un idiot. Les gens, à partir du moment où on leur fournit des éléments de compréhension, de description, sont capables de comprendre les intentions du film, du réalisateur, des personnages. Donc du coup, il y a un grand distinguo à faire entre eux, et qui est énorme en analyse filmique, c'est qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je vois. Et c'est, par exemple, pour des enfants, c'est un distinguo très très compliqué en général, mais qui est très très pratique, avec un champ d'application pratique avec l'audiodescription. Ce que tu sais là, est-ce que c'est l'image qui te l'a fournie ou est-ce que c'est ta compréhension personnelle, intellectuelle, culturelle qui te l'a fournie? Ça permet aussi effectivement de travailler sur les registres d'écriture et de vocabulaire, comme je vous disais. Si on compare certains films, on se rend compte qu'effectivement, à l'écoute, il y a des audiodescriptions qui sont réussies et d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas à travailler qui pour moi est de même ordre que par exemple quand on lit un livre d'images à des enfants. Je pense que en séance de lecture, c'est très rare qu'on lise seulement le texte avec l'image. Bien souvent, on développe autour de l'image une forme de sémantique pour donner l'image et la rendre plus vivante pour un public enfantin par exemple. Donc, c'est en ce sens que peut-être, il me semble que vous pouvez vous approprier cet outil et en faire quelque chose qui va au-delà de juste un élément d'accessibilité des œuvres, mais peut-être un outil, voilà, de partage et de discussion autour de la perception. Voilà, moi c'est à peu près les choses qui me semblaient, que je voulais cibler pour vous. Et en revanche, ça m'intéresse parce que c'est un peu flou de savoir si vous avez des questions à cet endroit-là ou si, voilà, ou des choses qui vous viennent par rapport à ce que je viens de dire.
Alors, ouais, peut-être une question, mais ensuite, on a une demi-heure de retard. Ah, donc, il faut vraiment... Parce que, étant donné qu'ensuite, après la prochaine intervention, il va y avoir une pause, donc ça serait bien d'aller voir Marie, par exemple, si vous avez des questions. Alors, pour les poser à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être aussi pour faire plus rapide, moi, je voulais vous dire que donc, il y a une adresse... donc, j'ai une association qui s'appelle Les Traducteurs d'Images, qui va changer de nom parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait déjà. Bon, bref. et donc, en tout cas, il y a une adresse internet où je suis contactable, c'est les traducteurs d'images avec des points entre chaque mot, y compris autour du D apostrophe, images au pluriel, @gmail.com. Voilà. Les traducteurs d'images, oui, les points traducteurs, point D point images. Très simple comme adresse. Voilà. Voilà.
Bonjour.
Oui.
Juste une question, je voulais savoir si ça coûtait cher de mettre un fichier d'audiodescription sur un DVD, parce qu'il existe beaucoup d'audiodescriptions, notamment en retour d'image, on fait beaucoup, oui. Mais on ne les trouve pas sur les DVD. Donc je voulais savoir si c'était une histoire de coût, ou alors si on n'arrivait pas à fédérer, chacun faisait un petit peu ses audiodescriptions dans son coin, et n'arrivait pas à fédérer quelque chose autour de l'édition en fait, de l'audiodescription. Enfin, je ne sais pas comment expliquer.
J'entends ce que vous dites. C'est un peu un embrouille. C'est un petit peu compliqué de répondre en cours. Alors, pourquoi est-ce que retour d'image, il n'y a pas tout sur les DVD ? Souvent parce qu'en fait, je pense qu'ils prennent, eux, l'initiative de décrire des choses dont ils trouvent très dommage que ça n'a pas été audio-décrit au moment de la post-production. En général, quand les DVD sont sortis et que le distributeur ou le diffuseur ou la production n'a pas pris l'initiative de faire l'audio-description, elle ne sera pas faite après. Voilà, pour des... Un coût d'audiodescription, tout compris, c'est pour le film, c'est entre 4 et 5 000, disons 4 000 maintenant, parce qu'il y a une baisse flagrante des tarifs. Donc voilà. Après, sur des rééditions de DVD, en général, les gens n'y pensent pas toujours. Il y a des obligations qui s'appliquent surtout, il y a des quotas surtout, après il y a des obligations, mais qui s'appliquent de plus en plus. Mais voilà, c'est pas le cas de... Par exemple, en documentaire, il y a très peu de choses. Après, il y a des histoires de Walt Disney s'y est mis très tard, par exemple, parce qu'ils étaient très frileux. Enfin, c'est effectivement assez compliqué. Donc, pour retour d'image, je pense qu'ils les font après, eux, parce qu'ils disent que c'est trop dommage. Donc, ils prennent l'initiative. Mais le fichier existe, comme ça. Ils le synchronisent avec leur film. Mais c'est effectivement, il n'y a pas de support fixe et pérenne qui peut se diffuser après. Voilà. Dans ce cas spécifique. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Excusez-nous d'être obligés de faire avancer un peu.